Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous vivons ici à Paris des heures étranges, des heures inquiétantes, comme en Italie, comme en Espagne, comme dans la plupart des pays européens, aujourd'hui épicentre de la pandémie mondiale, la présence du coronavirus paralyse le fonctionnement de nos sociétés et de nos économies. Quel est l'impact économique aujourd'hui? Quel sera-t-il demain? Les mesures des gouvernements européens sont-elles adaptées? La solidarité économique est-elle au rendez-vous? Quel rôle pour la BCE, la Banque Centrale Européenne? Telles sont quelques-unes des questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Des invités qui, pour des raisons que vous comprendrez aisément, ne sont pas comme à l'habitude près de moi en studio, mais chez eux, confinés en sécurité, au téléphone, et que je vous présente maintenant. Bonjour Christian de Boissieu.
Bonjour.
Christian de Boissieu, vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. Avec vous dans cette émission, Francesco Saraceno, bonjour.
Bonjour.
Francesco Saraceno, vous êtes économiste à l'OFCE, le Centre de Recherche en Économie de Sciences Po. Vous avez été conseiller par le passé de plusieurs présidents du Conseil italien et vous venez de publier aux éditions Odile Jacob un livre intitulé « Le temps retrouvé de l'économie ». Il est co-signé par Jean-Luc Gaffard et Mario Amendola. Au cours de cette émission, coronavirus ou pas, des reportages, nous retrouverons Thomas Giraudeau à Varsovie en Pologne, Pascal Thibault, le correspondant de RFI à Berlin, ainsi que Pauline Glaise qui nous parlera Italie et David Bachet à Paris. Mais avant de passer la parole à Christian de Boissieu et à Francesco Saraceno, qui nous accompagneront pendant toute cette émission, un invité avec lequel nous allons passer les premières minutes de cette émission, Fabrice Lesacher, vous êtes vice-président du MEDEF, le patronat français, bonjour.
Bonjour.
Fabrice Lesacher, dans quel état sont les entreprises françaises aujourd'hui?
Écoutez, l'impact, il est rude, hein, il est violent pour les entreprises. Vous avez une désorganisation au sein de l'entreprise, évidemment, avec un absentéisme de salariés, vous avez des ruptures de chaînes d'approvisionnement et puis vous avez dans le même temps une chute assez drastique du chiffre d'affaires, des commandes, des perspectives, donc c'est violent et c'est brutal. C'est pour ça qu'il y a besoin de mesures airbag et de mesures d'urgence pour amortir le choc et le MEDEF a travaillé de concert avec le gouvernement depuis ces dernières semaines, ces derniers jours à mettre en place ce paquet de mesures qui est nécessaire pour passer la crise.
Justement, le gouvernement a multiplié les annonces de soutien à l'économie et aux entreprises, des reports de prélèvements fiscaux, des aides sonnantes et trébuchantes à hauteur de 45 milliards d'euros, des garanties de prêts bancaires pour 300 milliards. C'est suffisant?
Écoutez, tout d'abord, la situation, elle évolue heure après heure, jour après jour, donc on verra si c'est suffisant. Pour le moment, il y a des mesures assez massives qui ont été prises. C'est pas des cadeaux aux entreprises, c'est des reports de charges. Donc je rappelle quand même que ça devrait être payer plus tard. Dans certains cas, et au cas par cas, justement, ça peut être des dégrèvements. Il y a des reports de charges fiscales, d'impôts directs, de cotisations sociales. Et puis, il y a aussi, et c'est très important, des mesures de chômage partiel qui ont été étendues. Ça, c'est le deuxième pôle, parce que là, il y a vraiment des problèmes de cash dans les entreprises et les ressources
humaines. Des problèmes de trésorerie, vous voulez dire?
Ah oui, de trésorerie. Et donc, les ressources humaines, s'il faut les payer alors qu'il n'y a pas d'activité, c'est compliqué. Donc, le chômage partiel permet d'éviter certains crashs. Et puis le troisième paquet de mesures, c'est au sens large les garanties de prêts de trésorerie via les banques privées. Donc il y a tous les réseaux bancaires et la Fédération française des banques a été assez réactive en la matière et a donné un délai de 5 jours pour que les réseaux bancaires contactent leurs clients. Et puis il y a aussi la Banque publique d'investissement qu'il ne faut pas oublier, qui va mettre entre 3 et 5 milliards aussi d'aide sur ces garanties de prêts.
Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, il y a déjà des entreprises qui ont mordu la poussière?
Écoutez, on n'a pas de dépôt de bilan, mais ça dépend ce qu'on entend par mordre la poussière. On a un certain nombre d'entreprises qui étaient contraintes de fermer, donc on sait que ça va être très compliqué pour elles de tenir. Après, c'est une question de temporalité. Si la crise dure 4 semaines, ça sera moins difficile que si elle dure 5 semaines ou que si elle dure 8 semaines. Donc on a aussi la réalité sanitaire en parallèle à devoir gérer.
Le gouvernement français explique que l'essentiel, c'est de préserver la force de production française pour redémarrer rapidement après l'épidémie. C'est une stratégie crédible ?
Il y a deux combats à mener en parallèle, hein, je crois. Il y a le combat sanitaire qui est la priorité, hein, la sécurité des personnes, et puis il y a le combat économique, parce qu'on peut s'affaiblir fortement et durablement si on n'y prend pas garde. Et puis, si j'ose dire, on a des lignes de front. Si la base arrière ploie, ça va poser des difficultés. Quand il faut, par exemple, tout simplement approvisionner en vivres des grandes surfaces, ça veut dire que derrière, il y a une chaîne logistique, il y a des transporteurs, il y a des garages pour réparer ces camions, il y a des stations-services, donc il y a le secteur de l'énergie, l'économie, elle est interconnectée. Donc il faut autant que faire se peut, là où c'est possible, quand les conditions de sécurité sont réunies, quand le télétravail n'est pas possible, évidemment, se rendre sur son lieu de travail, il n'y a pas de contre-indication, c'est même un motif de sortie. Quand on n'a rien à faire dehors, il faut rester chez soi. Mais si on doit aller travailler et que les conditions de sécurité, c'est à charge de l'employeur de le mettre en place, sont réunies, il faut y aller. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut plus de dialogue aujourd'hui que jamais social dans l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'on fait au niveau national avec les syndicats représentatifs des salariés. Mais il faut une continuité économique autant que ça soit possible.
Les autorités n'excluent pas de recourir aux nationalisations pour des entreprises essentielles qui se trouveraient en danger. Le MEDEF valide cette idée ?
Écoutez, on est dans une situation exceptionnelle, hein, un petit peu inédite. Donc il peut y avoir aussi des mesures exceptionnelles. Il ne faut pas avoir des postures là ou des dogmes. Il faut être assez pragmatique quand on voit des compagnies aériennes, notamment Air France, KLM qui a dû perdre, je crois, 80 ou 90% de son chiffre et qui va peut-être être même cloué au sol pendant quelques jours, voire semaines. On comprend bien que c'est compliqué. On comprend également que certains fleurons industriels vont être gravement affaiblis et donc on peut pas se permettre d'avoir ensuite des prises de participation ou des prises de contrôle étrangers non sollicités ou qui nous semblent pas pertinents.
Fabrice Le Sachet, je vais vous libérer, mais avant, une dernière question. Vous avez une fibre très africaine. Oui. Quel est l'impact de ce qui se passe sur les échanges commerciaux entre la France, l'Europe et le continent africain ?
Pour le moment, on a, enfin, c'est les informations qu'on a, hein, ça évolue très rapidement encore une fois. Les échanges sont possibles, hein. L'Italie n'a pas arrêté d'approvisionner, par exemple, en agroalimentaire la France toutes ces dernières semaines. D'ailleurs, je tiens à signaler que la production industrielle en Italie demeure à 90%. L'Espagne, les camions ont l'air de circuler. Pour le moment, ça circule encore. S'agissant de l'Afrique, moi je suis pas un expert, mais je lis les nouvelles avec gravité comme tout le monde de l'extérieur. J'ai noté que dans un certain nombre de pays africains, il y avait les premiers cas détectés de coronavirus. Donc c'est vrai qu'au regard des enjeux, de l'ampleur, du défi sanitaire, des capacités qu'il faut avoir pour y faire face, il y a un peu d'inquiétude et j'espère que les pays africains prendront les mesures qui conviennent assez rapidement pour protéger leur population.
Merci Fabrice Le Sachet. Merci, bonne
Merci.
Journée.
Au revoir.
Alors, on va tout de suite aller sur le terrain. Parmi les entreprises françaises touchées, il y a celle du secteur automobile comme Renault qui a fermé la plupart de ses sites. Mais partout, ce qui provoque la colère des salariés, c'est l'obligation qu'il leur est faite de rester au travail dans des conditions souvent sanitaires qui ne leur conviennent pas. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs signé David Bachet.
Les 12 usines françaises de Renault sont fermées depuis le début de la semaine. Mais dans certaines parties de l'ingénierie ou de la logistique, le travail continue et pas forcément de chez soi. Selon Fabien Gache, délégué national CGT Renault, environ 600 salariés doivent toujours se rendre sur leur lieu de travail.
Les activités considérées n'ont aucune raison d'être. Ça ne relève pas du bon fonctionnement de la société civile. Et ce sont des conditions qui sont absolument pas optimales. Les salariés qui sont obligés de venir en transport en commun. Et puis se pose ensuite sur le poste du travail la problématique des distances qui, dans bien des cas, ne peuvent pas être respectées du fait de l'activité professionnelle, auxquelles s'ajoute l'absence de gants, de produits hydroalcooliques, mais aussi du nécessaire pour désinfecter les installations. Je pense en particulier aux essais des bains moteurs ou des essais de véhicules.
Se pose aussi la question du maintien des salaires des employés au chômage partiel. Le gouvernement a annoncé qu'il augmenterait sa contribution à l'indemnisation des salariés. Fabien Gache, délégué CGT chez Renault, demande aux actionnaires de participer eux aussi à l'effort collectif.
On ne peut pas demander à la population en général de faire preuve de citoyenneté et d'exclure les actionnaires. On a demandé à la direction générale de consacrer les sommes correspondantes aux dividendes au maintien à 100% de la rémunération de l'ensemble des salariés de l'entreprise et des intérimaires entre autres.
À ce jour, 25 000 employés de Renault sur 38 000 en France sont concernés par le dispositif de chômage partiel.
C'était un reportage signé David Bachet. Christian de Boissieu, est-ce que le patronat français dont on vient d'entendre un représentant a des raisons d'être assuré par le plan gouvernemental?
Écoutez, le plan qui est avancé, pour l'instant, je dirais, il est nécessaire. Est-ce qu'il sera suffisant? Moi, je suis pragmatique, comme le chef d'entreprise qui s'est exprimé avant moi, je suis pragmatique. Nous verrons bien. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est la multiplication des faillites dans le tissu des PME. J'utilise le terme PME qui n'a pas été utilisé jusqu'à présent et qui me paraît central parce que dans un pays comme la France, mais c'est vrai dans beaucoup de pays européens, le tissu des PME et des entreprises de taille intermédiaire, ce tissu est central pour l'activité et pour l'emploi. Et donc, il faut absolument que ça tienne de ce côté-là. Et ce qui est à craindre, ce sont des problèmes de financement, des problèmes de trésorerie, la montée d'arriérés de paiement. Et donc, je comprends que ce qui est demandé aux banques et ce qui est demandé aux institutions publiques, c'est de faire en sorte que il n'y ait pas trop de rupture dans les financements et dans la trésorerie des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Mais je dirais, c'est pas gagné a priori. À mon avis, c'est là-dessus que ça va jouer l'année 2020.
Mais la France est réputée être un pays qui, justement, manque de PME et d'entreprises de taille intermédiaire.
Non, on a beaucoup de PME et pas assez d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, justement, à différence de l'Italie ou de l'Allemagne. Mais disons, parlons pas de la croissance des PME. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas la croissance des PME, c'est la survie des PME.
Elle est en danger grave.
Ah ben moi, je considère qu'elle est en danger grave. Pour des raisons à la fois, il y a un choc d'offres, il y a un choc de demande. Il y a vraiment les deux jambes qui...
Expliquez-nous ça, Christian de Boissieu.
Il y a un choc d'offres, parce que ça a été dit tout à l'heure, il y a des ruptures d'approvisionnement. Il y a des intrants nécessaires pour la production qui n'arrivent plus, il y a des entreprises et des usines qui sont fermées, etc. Et puis il y a un choc de demande, parce que du côté de la consommation et des consommateurs, l'inquiétude est grande. Et donc aujourd'hui, on a affaire à une population dont je fais partie, on est tous comme ça, qui consomme moins et qui épargne un peu plus face à la montée de l'incertitude. Et donc les deux aspects, l'offre et la demande, jouent dans le sens négatif. Et ça, ça veut dire moins de débouchés pour les entreprises, quelle que soit leur taille, et ça veut dire un cercle vicieux qui va durer tant que les chiffres du côté sanitaire sont pas bons. Tant qu'on n'a pas le sentiment d'avoir atteint le pic, à mon avis, le climat économique et financier va être mauvais.
Le président de la République dit que le coût des mesures adoptées n'a pas d'importance, que l'État dépensera ce qu'il faut pour sauver l'économie.
Je suis d'accord.
Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord. Écoutez, c'est vraiment pas le moment d'avancer comme argument les règles budgétaires nationales ou européennes. Ça veut dire, nous vivons une situation exceptionnelle qui justifie de relâcher tout ce qui doit être relâché. Et donc, on verra après comment relancer l'économie, comment rattraper ce qu'on a lâché du côté des déficits et du côté des dettes. Mais très franchement, c'est pas le moment de mégoter.
C'est-à-dire les 3% de déficit maximal du budget, l'endettement, tout ça, on oublie
On met ça entre parenthèses. Je vous rappelle quand même que c'est prévu par les traités européens qui parlent de circonstances exceptionnelles qui font que les règles budgétaires ne s'appliquent plus dans ces circonstances exceptionnelles. Nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. Et donc, c'est pas le moment de mettre en avant les règles budgétaires. Le moment, aujourd'hui, c'est de sauver des vies et d'essayer, du côté économique, même si pour moi, les questions de vie ou de mort, c'est plus important que les questions économiques, essayer de faire en sorte que la casse économique soit pas trop importante.
Vous voyez des précédents dans l'histoire économique française et européenne, et même mondiale, de cette crise, Christian de Boissieu?
Écoutez, moi, je suis plutôt jeune. J'ai connu des cracks, j'ai connu des crises financières. J'ai pas le sentiment qu'il y ait d'équivalent. Alors, il se trouve que par définition, moi je suis né quelques années après la guerre, donc j'ai pas
après
connu
l'économie... Après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, heureusement. Oui. J'ai pas connu l'économie de guerre, mais j'ai le sentiment que nous sommes clairement dans une configuration d'économie de guerre.
Francesco Saraceno, L'Italie est entrée dans l'épidémie avant la France. Est-ce que l'économie italienne s'est effondrée?
Elle est en train de s'effondrer, c'est clair. Presque tout a été déjà dit par ceux qui m'ont précédé.
Presque tout.
Bon, on a un choc qui est similaire. Le choc, du coup, la crise sanitaire italienne, si vous voulez, elle commence. L'Italie a 10 jours d'avance sur la France. Donc, il faut regarder aussi aux mesures qui sont prises en Italie et voir si elles marchent ou pas, parce que c'est une bonne indication. Chose qu'à mon avis, on n'a pas fait suffisamment au début ici en France. On a un peu laissé passer ce qui arrive en Italie comme atypique. En fait, non, on les suit. Et donc, bon, ça, c'est à part. Mais la crise économique, elle nous frappe en même temps, parce que déjà, elle a commencé avec la chute de l'activité en Chine qui a impacté les entreprises européennes même avant que la crise sanitaire arrive chez nous. Aujourd'hui, à cette crise s'ajoute une crise de demande parce que consommation et investissement sont à l'arrêt partout et l'offre de travail, c'est-à-dire les gens ne vont plus au travail et donc il y a une chute aussi de la production. Et moi je pense que ce qu'on a dit avant, c'est fondamental, c'est-à-dire il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut partout en Europe et après peut-être on parlera de ce que peut faire l'Europe dans son ensemble pour garder les entreprises, surtout les petites et moyennes, mais pas que, vivantes. Parce que pour crise de ce type, par le passé, des crises de ce type se sont soldées avec des récessions très profondes et après avec des rebonds très marqués. Bon, il y avait des estimations, par exemple, sur l'économie européenne, qui à mon avis sont un peu optimistes, qui disaient qu'on était à moins 5 en 2020 et qu'on serait à plus 6 en 2021.
Attendez, moins 5. Reprenons ces chiffres. Moins 5% de croissance.
En 2020.
C'est-à-dire une récession très violente.
Très violente. Et en plus, je pense que c'était Morgan Stanley. J'ai vu passer ça sur Internet. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Personne ne peut faire confiance à ces chiffres. Ça pourrait être le double comme la moitié. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, et je pense que je partage cette idée, au-delà des chiffres qu'on a vus, c'est que la récession en 2020 devrait se solder par un rebond très marqué en 2021.
Christian de Boissieu, vous partagez ce point de vue? On va, parce que le gouvernement français, pour l'instant, parle pour la France d'une récession de 1% sur 2020. Alors, il y a des chiffres beaucoup plus importants qui circulent, comme Francesco Saraceno vient de le dire. Vous avez, comme ça, un peu au doigt mouillé, une vision des choses?
Bon, d'abord, nous courons les uns les autres après les événements qui sont en train de se dérouler. Le film dramatique qui se passe sous nos yeux, il est loin d'être terminé. Donc, les chiffrages, attention. Deuxièmement, moi intuitivement, parce que vous faites appel à de l'intuition là, intuitivement, je pense que la récession 2020 va être plus grave que la récession de 2009. En 2009, après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, il y a eu en France une récession qui a été de moins 2,5% et qui a surtout été forte mais courte, elle a concerné le premier semestre 2009. J'ai le sentiment que nous sommes dans un scénario qui est plus grave, qui est plus négatif et que la récession peut être plus marquée et plus durable que le premier semestre 2020. Alors ensuite, il y aura, quand on sera sorti de là, on ne sait pas quand, il y aura forcément, comme il y a toujours, un rattrapage, un phénomène de rattrapage. Il y a des choses qu'on ne rattrape pas. Les nuitées d'hôtel, les billets d'avion qui sont annulés, etc. Ça ne se rattrape pas nécessairement. Il y a beaucoup de choses qui ne se rattrapent pas. Et puis, il peut y avoir des choses qui se rattrapent. On verra bien. Mais pour l'instant, moi, j'ai du mal à me projeter aujourd'hui dans la phase de sortie. Je suis encore là-dedans. Moi, je suis encore dans le film.
Alors, c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus en Europe. Deux invités, Christian de Boissieu, professeur émérite d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Francesco Saraceno, économiste à l'OFCE, le Centre de Recherche Économique de Sciences Po. L'Italie, on en parlait à l'instant, elle a été le premier pays européen durement touché par le coronavirus. Dès février, les premières mesures de confinement ont été prises, avant d'être peu à peu étendues à tout le pays. L'impact sur l'économie italienne devrait être lourd, les prévisions se dégradent rapidement, Francesco Saraceno nous disait moins 5%, la semaine dernière, un centre de recherche Oxford Economics prévoyait moins 3% en 2020. Cette semaine, les analystes ont encore donc revu leur copie. Dans l'immédiat, l'urgence est de maintenir à flot entreprises et travailleurs. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Paul Inglaise.
Télétravail, mise en place de consignes de sécurité, plus ou moins respectées selon certains salariés, les défis ne manquent pas. Autre gageure, maintenir les chaînes d'approvisionnement en dépit des difficultés aux frontières avec l'Autriche, la Slovénie et la Croatie. Et malgré les efforts, Marcella Panucci, la directrice générale de la Confindustria, craint pour la survie de certaines entreprises.
Il est évident que la demande interne s'est effondrée dans beaucoup de secteurs et cette réduction de la demande privée va se poursuivre dans les prochains mois. Donc nous craignons fortement qu'il y ait des entreprises qui ferment maintenant et qui ne rouvrent plus par la suite. Pour cela, des mesures très fortes doivent être prises.
La Confindustria se félicite des dernières mesures prises par la Banque Centrale Européenne. Le gouvernement italien a aussi mis en place un plan « Soigner l'Italie » avec une enveloppe de 25 milliards d'euros. Des mesures de chômage technique ont été généralisées. Tania Scacchetti, secrétaire nationale de la Confédération générale italienne du travail, craint que cela ne suffise pas.
Les premiers amortisseurs sociaux ont été déclenchés pour 9 semaines et la semaine prochaine, on en sera déjà à la 4e. Et malheureusement, de ce que l'on sait, on ne peut pas espérer une reprise aussi rapide.
Mais il y a encore plus inquiétant à ses yeux.
La mesure la plus faible, c'est celle pour les travailleurs autonomes occasionnels, les indépendants, comme des patrons de bar, les artisans, etc. Parce qu'il est prévu pour eux une indemnité de 600 euros. C'est une bouffée d'oxygène, mais cela risque d'être très insuffisant.
Alors peut-on parier sur un rebond rapide de l'économie à la fin de l'épidémie, sur la résilience des entreprises pour se remettre en selle ? Marcella Panucci n'est pas très optimiste.
Les entreprises italiennes, comme dans beaucoup de pays, ne peuvent pas s'en sortir seules. Cette crise sera beaucoup plus grave que la crise financière de 2008 parce que c'est une crise de l'économie réelle qui aura un impact sur le monde financier qui, à son tour, affectera l'économie réelle. Donc, il y aura forcément une spirale négative.
La directrice générale de la Confindustria estime que, plus que jamais, les budgets publics devront être mis au service de l'économie réelle. Elle souhaite un engagement au niveau européen pour une plus grande force de frappe. Pour elle, c'est le modèle socio-économique de l'Europe qui est en jeu.
Et un dossier signé Paul Ingles sur l'économie italienne. Francesco Saraceno, beaucoup de choses dans ses déclarations, en particulier de la directrice générale de la Confindustria. Elle parle d'une spirale négative, c'est-à-dire que, contrairement à ce que vous estimiez tous les deux tout à l'heure, Christian de Boissieu et vous surtout, Francesco Saraceno, elle ne table pas trop sur un redémarrage violent et brutal et massif après l'épidémie.
On a déjà vu des crises comme ça se passer, pas au niveau mondial, mais dans des pays. Et d'habitude, quand il y a l'économie qui s'arrête brutalement, comme c'est arrivé chez nous, il y a, comme le disait M. de Boissier, plein d'activités qui est perdue à toujours, mais il y en a plein qui est tout simplement reportée. Et donc la consommation, l'investissement des entreprises. Ce qui est fondamental, c'est ce que disait aussi Mme Panucci dans l'entretien, ce qui est fondamental, c'est qu'au moment où la demande va redémarrer, donc parce qu'on aura soutenu les revenus des travailleurs, parce qu'on aura soutenu les entreprises qui sont capables de redémarrer avec l'investissement, à ce moment-là, il y a la capacité productive disponible pour accompagner ce redémarrage de l'économie. Si ça arrive, alors du coup, les rebonds peuvent être assez spectaculaires. Et du coup, c'est très important d'enrayer, par exemple, comme disait Mme Panucci, d'enrayer cette spirale qui risque de se mettre en place entre l'économie réelle et le secteur financier. Et donc, c'est très bien ce qu'a fait la Banque centrale. Bon, tout le monde s'est concentré, moi-même, sur la gaffe de Mme Lagarde.
On en parlera tout à l'heure, Francesco Saraceno, de la BCE. Mais je voudrais vous interroger, quelles sont les mesures prises par le gouvernement italien depuis le début de cette pandémie? Qu'est-ce qu'il a débloqué comme budget?
C'est assez similaire à ce qu'on a vu ici en France avec le gouvernement. C'est-à-dire, il y a deux axes fondamentalement. Le premier axe, c'est de mobiliser des ressources pour faire face à la crise sanitaire, parce que bon, le système de santé publique, surtout en Italie, a été très affecté par les coupes budgétaires par le passé. Donc, du coup, on manque de ressources, on manque de médecins, on manque de matériel. Et donc, il y a une catastrophe, on essaie de récupérer un peu avec beaucoup de difficultés. Donc, ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est de garantir un revenu, une continuité des revenus. Et donc, on a fait, nous aussi, on a étendu le chômage partiel. Nous aussi, on prévoit un support aux salariés, aux auto-entrepreneurs et ainsi de suite. Et troisième chose, on a reporté et on a étalé le plus possible les paiements des entreprises pour les soutenir un peu et pour ne pas impacter leur trésorerie au moment où ils n'ont pas de revenus. Donc finalement, si vous voyez, c'est assez intéressant en fait par ailleurs que tous les pays, chacun pour soi, ont fait plus ou moins la même chose. Après, les systèmes institutionnels sont un peu différents, donc les détails des mesures peuvent différer, mais tous les pays ont très clair en tête que ce qu'il faut faire, c'est garder à flot les systèmes des entreprises. Et surtout les pays comme la France et l'Italie, où les petites et moyennes entreprises sont en très grand nombre.
Christian de Boissieu, qui dit endettement dit remboursement, qui va payer?
Écoutez, on verra plus tard. Il faut laisser filer les déficits, et derrière les déficits, il y a de la dette. Je pense que la question du remboursement ou du renouvellement de la dette, on le posera en temps utile, hein, je veux dire, il faut pas chipoter, excusez-moi de parler comme ça. Moi, pour moi, je l'ai dit, je répète, les questions de vie ou de mort, c'est plus important que les questions d'endettement. Laissons filer, puis on verra in fine combien tout ça coûte et comment on gère des phénomènes de surendettement. J'essaye d'être pragmatique. Vous avez compris par rapport au débat qu'on vient d'avoir que moi j'ai du mal à me projeter dans la période de rattrapage et de sortie. Je pense qu'il faut concentrer toute notre attention, toute notre énergie sur la crise. Et en sachant que derrière la crise, il y aura évidemment une sortie qui sera plus ou moins rapide, plus ou moins compliquée. L'addition sera plus ou moins salée. Mais je veux dire, on fera face. Je suis pragmatique.
On va dans un troisième pays après la France et l'Italie, la Pologne, où les restaurants, les bars ont fermé, les salariés sont appelés à faire du télétravail, l'économie tourne au ralenti depuis lundi, la monnaie nationale, le zloty, s'est effondrée par rapport à l'euro. Alors le gouvernement a annoncé mercredi un plan de soutien de 50 milliards d'euros, soit près de la moitié du budget de l'État pour 2020. Sur place, cependant, beaucoup d'interrogations. Est-ce que le plan sera suffisant pour surmonter la crise? Des éléments de réponse avec ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Thomas Giraudeau à Varsovie.
Il y a quelques failles dans ce bouclier contre la crise, commentent les principaux syndicats de patrons polonais. Ils critiquent surtout le report du paiement des charges sociales au mois de juin. Les entreprises devraient pouvoir les payer plus tard encore, estime Sonia Buchholz du syndicat Leviathan. Dans 3 mois, l'économie polonaise ne se sera pas encore remise sur de bons rails. Le gouvernement doit donner plus de délais, dit-elle, car sinon il y aura beaucoup de faillites. L'inquiétude monte surtout du côté des petites et moyennes entreprises polonaises.
We switched off the world.
On a comme éteint l'économie mondiale pour quelque temps et on ne sait pas quand on va la rallumer, raconte Marek Sliboda, ce chef d'entreprise sous-traitant pour des usines automobiles, dont beaucoup sont à l'arrêt aujourd'hui, pense que le plan du gouvernement peut soutenir l'économie polonaise si elle s'effondre durant 2 ou 3 semaines, pas plus longtemps. La Pologne aurait dû faire des réserves depuis plusieurs années, alors que la croissance était très forte, le chômage bas, les recettes fiscales en forte hausse, décrit Witold Orlowski, économiste au cabinet d'audit PwC. Mais au lieu de cela, elle a dépensé massivement dans les politiques familiales et sociales. La Pologne est aujourd'hui moins forte financièrement qu'il y a un an pour faire face à l'épidémie.
Un reportage signé Thomas Giraudeau à Varsovie. Christian de Boissieu, est-ce que face à cette crise, tous les pays européens sont également armés? Parce que tout à l'heure, vous nous disiez tous les deux qu'il y avait une espèce de convergence des remèdes apportés par les pays européens. Mais est-ce qu'ils sont tous dans le même bateau, d'une certaine manière?
Au départ, les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes, parce que les situations financières, les situations d'endettement... l'emploi, le chômage, etc. sont différents d'un pays européen à l'autre. Mais là, il me semble quand même que c'est la convergence qui l'emporte, parce que nous sommes confrontés à la même pandémie, au même problème, et les réponses sanitaires sont les mêmes. Alors au bout du compte, il y aura des pays qui vont connaître des dérives plus importantes de finances publiques et de finances sociales parce qu'ils partaient de situations qui étaient moins assainies, mais je veux dire, on ne va pas faire payer aux pays qui ne s'étaient pas mis à l'ordre du jour suffisamment avant la crise, on ne va pas leur faire payer une addition plus salée. Là, ça rejoint le débat européen. Il faut de la coordination, il faut de la solidarité en Europe. La distinction entre les bons élèves de la classe et les mauvais élèves de la classe n'a pas de sens dans le contexte actuel.
Francesco Saraceno, votre point de vue sur cette question, est-ce qu'il y a une convergence, est-ce qu'il y a une solidarité?
Je suis absolument d'accord, c'est-à-dire on a aujourd'hui une émergence majeure. Heureusement, comme le disait M. de Boissier, les règles européennes, que par ailleurs moi je critique depuis toujours, prévoient des clauses d'exceptionnalité. Donc on fait jouer les clauses d'exceptionnalité, chaque pays fait ce qu'il peut et ce qu'il doit. Et de façon totalement non liée à son passé et à sa discipline. On ne peut pas dire aujourd'hui que le déficit qui va se creuser, ça sera parce qu'il y a des mauvais comportements de la part d'un gouvernement ou de l'autre. On a une crise majeure, donc il faut tout faire. Et si besoin de penser... Olivier Blanchard, l'autre jour, a tweeté...
Olivier Blanchard, c'est un économiste français, ancien chef économiste du FMI.
Et aujourd'hui, c'est un des plus respectés macroéconomistes au monde. Il a fait un tweet qui était assez parlant, qui montrait tous les déficits américains pendant les années 40, pendant les années de guerre. On parle de déficits de 20, 24, 25%. Donc, on n'arrivera pas à ça, mais si on y arrive, si on doit y arriver, on y va. Et la Grèce, comme l'Italie, comme la Pologne, comme l'Allemagne, et après, on se posera après la question de comment réduire la dette. Quand il y a des situations de dette, de guerre économique, dans ce cas-là, et sanitaire, la dette explose, et après, il faut gérer cette dette. Il y a beaucoup de moyens, on peut imaginer de la monétiser, on peut
imaginer
de l'étaler, on en parlera.
Mais est-ce qu'on peut l'effacer?
C'est une des options. On verra. C'est-à-dire, mais ça je reviens à M. Desbossiers, ça, c'est un problème pour après. Aujourd'hui, tout le monde est dans le même bateau. On dit comme ça en Italie, je ne sais pas s'il y a cette expression en France. Donc, il faut tout simplement faire ce qu'il faut. Et après, on en parlera.
Alors, dans vos interventions, tous les deux, il y a un acteur majeur, central, quasiment unique dans cette crise, ce sont les États. Est-ce que cette crise réhabilite le rôle de l'État dans ce monde capitaliste d'économie libérale? Est-ce que l'État est réhabilité, Christian de Boissieu?
Je dirais, pour moi, l'État n'a jamais été le contraire de réhabilité. Il a toujours joué un rôle, même en économie de marché. Donc, j'ai jamais, en tant qu'économiste, j'ai toujours considéré que l'État avait un rôle important à jouer dans une économie de marché. Deuxièmement, je ne pense pas qu'il soit réhabilité, il est réactivé. Et là encore, ça rejoint le débat sur le pragmatisme nécessaire. S'il faut nationaliser Air France ou renationaliser Air France, s'il faut que l'État monte au capital de Renault ou d'autres entreprises stratégiques, eh bien, il faudra le faire. Et on verra, pour sauver les fleurons industriels, etc., de nos économies, l'intervention de l'État, si elle est nécessaire, elle devra se faire. Et puis, vous savez, il y a des cycles dans l'histoire. Quand vous prenez un peu de recul, il y a des cycles de nationalisation, privatisation, etc. Moi, je suis pas du tout dogmatique sur cette question. L'État doit jouer son rôle, mais il faudra qu'on parle avant qu'on se quitte. Il faut qu'on parle de la BCE
on va y arriver. Vous inquiétez pas.
Parce que c'est les deux jambes. Ce sont les deux jambes qui comptent. C'est la conjugaison des deux jambes, les États, c'est-à-dire les politiques publiques et la politique monétaire, qui peut permettre d'atténuer un peu la violence du choc.
Alors, on va avant d'aborder cette question bancaire de la Banque Centrale Européenne, rejoindre notre correspondant Pascal Thibault à Berlin. Pascal Thibault, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Pascal Thibault, vous êtes le correspondant permanent de RFI à Berlin. La chancelière Merkel a fait plusieurs interventions ces derniers jours. Qu'a-t-elle annoncé ?
Les principales mesures qui seront prises en Allemagne face à la crise sont plutôt les ministres de la Santé, les ministres du Travail, les ministres des Finances et de l'Économie qui l'ont annoncé. Il y a une semaine, Olaf Scholz, le ministre des Finances, parlait d'un bazooka, une image martiale pour décrire la riposte allemande aux conséquences économiques de la crise. Tout doit être fait pour les limiter au maximum, estiment tous les responsables. Une récession est attendue, bien sûr, pour cette année. Elle pourrait être plus sévère que celle de 2009, lorsque lorsque le PIB allemand s'était contracté de 5%. Un institut de conjoncture estime qu'elle pourrait même aller, cette baisse du produit intérieur brut, jusqu'à moins 9%. Alors, première arme à nouveau comme en 2009, le chômage partiel avec la prise en charge de 60% du salaire net par l'Agence pour l'emploi. Plus de 2 millions de personnes pourraient en profiter contre 1,4 million en 2009, coût attendu 10 milliards d'euros. Deuxième arme, le fameux bazooka d'Olaf Scholz, des garanties de crédit illimitées de l'État pour les entreprises en difficulté, quelle que soit leur taille. Le magazine Der Spiegel parle d'un fonds de 500 milliards d'euros qui pourrait être mis en place. Et troisième arme en gestation, qui pourrait être adoptée dès la semaine prochaine, un fonds des investissements de 40 milliards pour les travailleurs indépendants, les petites entreprises de moins de 10 salariés qui profitent moins des premières mesures que j'ai évoquées. Et à tout cela s'ajoute aussi tout ce que font les différentes régions allemandes. La plus grande d'entre elles, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a ainsi adopté cette semaine un paquet de mesures d'un montant de 25 milliards d'euros. Et cela va sans dire, le sacro-saint équilibre budgétaire va être remis en cause. Le gouvernement allemand, on l'évoquait un instant, n'exclut pas non plus des prises de participation dans des entreprises stratégiques comme par exemple la compagnie aérienne Lufthansa.
Merci Pascal Thibault à Berlin. Christian Boissieu, c'est une révision déchirante pour l'Allemagne. Là aussi, l'équilibre budgétaire est oublié.
Ouais. C'est dommage qu'il ait fallu cette crise grave, dramatique, pour que l'Allemagne en vienne à cette politique pragmatique. Ça fait des années, donc bien avant qu'on parle du corona, qu'on appelle l'Allemagne, qui a des excédents extérieurs, des excédents budgétaires, à mettre la main au pot et à contribuer à la relance de l'économie européenne. Il aura fallu le corona pour que nos amis allemands acceptent de remettre en cause certains dogmes auxquels ils s'adossent. Bon, je salue le pragmatisme in fine de l'Allemagne. Je regrette qu'il soit tardif.
Francesco Saraceno, l'Allemagne, elle est riche de ses excédents commerciaux budgétaires qui sont colossaux. Est-ce qu'elle est beaucoup plus à l'aise que ses principaux partenaires pour faire face à la crise ?
Mais non, pour les raisons qu'on disait avant, c'est-à-dire aujourd'hui, grâce à ce qu'on a mis en place, on en reparlera dans quelques instants avec la BCE, aucun pays n'a des limites. C'est pas parce que ça sera pour après que l'Allemagne sera en meilleure position, parce que sa dette aura augmenté moins. Mais moi, je crains qu'en fait, de quelque manière, c'est assez facile qu'aujourd'hui, on soit tous d'accord sur ce qu'il faut faire, y compris laisser filer les déficits, y compris utiliser toutes les armes qu'on a, la dette, etc. Moi, je serai très vigilant après, parce que après, moi, je crains qu'après, le retour à l'orthodoxie, ça sera aussi brutal. Et de quelque manière, si on fait le parallèle avec 2008-2009, et c'était une crise qui n'a rien à voir, à mon avis, celle-ci sera beaucoup plus violente. Le problème de la crise de 2009-2010 n'a pas été 2008-2009 quand on a eu à faire face au choc, à la crise financière. C'est à partir de 2010 quand on a décidé de revenir par l'austérité. Donc c'est là où il faudra être vigilant et c'est là où il faudra demander aux Allemands de changer leur logiciel. Parce que leur logiciel qui les change aujourd'hui quand on a j'ai entendu 9%, bon, peut-être que ça va pas être aussi profond que ça, mais quand on a une crise de cette portée, c'est clair qu'ils feront filer les déficits. Et c'est clair qu'ils ne feront pas d'histoire si l'Italie ou la Grèce laissent filer les déficits. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans un an ou deux? C'est là où il faudra être vigilant et il faudra espérer que les lignes aient vraiment bougé en Allemagne.
Alors, Christian de Boissieu et Francesco Saraceno, tous les deux, vous soulignez il y a quelques instants l'importance de l'action de la Banque Centrale Européenne. Elle a aussi débloqué un package. Quel rôle joue la Banque Centrale Européenne pour répondre à cette crise, Christian de Boissieu?
Écoutez, hasard du calendrier, j'ai publié il y a deux semaines, avant l'accentuation de la crise du corona, un que sais-je sur les 100 mots.
Un petit livre. Voilà.
Un petit livre sur les 100 mots MOTS, je précise, de la politique monétaire, où donc je passe en revue tout ce qui a été fait par la BCE de manière pragmatique depuis quelques années, en particulier au moment, au pic de la crise grecque en 2012, quand Mario Draghi a dit que l'euro est irréversible et que la BCE allait faire tout ce qu'il faut faire, whatever it takes. On a retenu l'expression en anglais, quoi qu'il en coûte en quelque sorte. Et donc après une petite gaffe de Madame Lagarde l'autre jour, qui avait l'air de considérer que la BCE n'allait pas s'occuper des différentiels de taux d'intérêt dans la zone euro et qui ouvrait une sorte de porte dangereuse à la thèse de la fragmentation de la zone euro. Aujourd'hui, on a besoin de solidarité, on n'a pas besoin de fragmentation européenne. Et donc, c'est vrai que il y a un peu plus de 24 heures, la Banque Centrale Européenne a annoncé un paquet très important. Au total, on n'est pas loin de 1 000 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour pousser les banques à financer l'économie réelle, à prêter aux PME, etc. Bon, ça me paraît un signal important. Et on verra, parce qu'il est possible que les sommes à mettre sur la table varient, augmentent au cours du temps. Moi, je prends le signal donné par Mme Lagarde et ses collègues comme un signal comme quoi la BCE fera le job. Elle va faire le job à côté des États pour limiter la casse. J'ajoute un dernier point sur ces questions. Il faudra aussi, on est en train de le faire dans les pays européens, il faudra aussi regarder l'impact des réglementations bancaires et financières qui ont été mises en place suite à la crise de 2008. Je ne cherche pas à défendre les banques, j'essaye d'être un homme libre. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de réglementations mises en place qui freinent le financement des crédits aux PME. Or, je l'ai dit au début, on l'a tous dit autour de cette table, autour de votre table, la question du financement des PME est centrale. Donc, politique monétaire, très souple, pendant un certain temps ou un temps certain, c'est bien. Les États qui interviennent, les politiques publiques qui lâchent tout, c'est bien. Regardez de près si les réglementations qui ont été mises en place ne jouent pas en sens inverse. Et si elles jouent en sens inverse, il faudra savoir être pragmatique pendant quelques mois, aussi de ce côté-là.
C'est-à-dire, vous appelez à un relâchement des règles prudentielles, des garanties qui sont imposées aux banques, des mesures de sécurité ?
Je répète, je ne suis pas le défenseur des banques, je ne participe pas au lobby bancaire, je dis simplement, je veux pas que... On ne peut pas à la fois appuyer fortement sur le moteur et freiner un peu en même temps du côté des crédits aux PME, des crédits à l'économie réelle, donc il faut regarder la cohérence de tout ça.
Francesco Saraceno, vous en pensez quoi ?
Je suis d'accord. Premièrement, la BCE a fait tout ce qu'elle pouvait pour garder les épaules de quelque manière des gouvernements, pour expliquer, on vient de dire, et tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut laisser filer les déficits, mais après, laisser filer les déficits, ça veut dire placer sur les marchés des titres que les marchés doivent avoir envie d'acheter. Et si la BCE dit on est là pour soutenir les gouvernements, donc il n'y aura pas de faillite des gouvernements suite à cet épisode. Alors du coup, les marchés peuvent financer le déficit, et donc ça, la BCE devait le faire. Il y a eu cette petite gaffe de Christine Lagarde la semaine dernière qui a été vite, de quelque manière, compensée par des actions successives. Donc ça, c'est très bien. Et après, il y a les financements aux banques, c'est-à-dire faire si que les canaux de transmission du crédit reste fluide et à la limite soit même rendu plus fluide. Et donc il y a un problème de réglementation et il y a un problème de financement du secteur bancaire. La BCE la semaine dernière a fait une chose très importante, c'est de facto elle a donné une subvention aux banques qui s'engagent à prêter aux petites et moyennes entreprises. En fait, on leur prête à un taux plus bas du taux auquel elles rémunèrent les dépôts. Donc, en fait, si on emprunte à la BCE, on gagne de l'argent. Et seulement si on emprunte à la BCE pour prêter aux entreprises. Et donc, c'est là où ils ont très bien fait. Il y a le grand sujet de si toutes les règles qu'on a mis en place pour rendre solide les systèmes bancaires aujourd'hui sont un obstacle à la fluidification des flux de crédit. Et bon, et sur ça, il faudra être très vigilant et à la limite intervenir. Mais l'autre chose que j'ai beaucoup aimé dans la communication de la BCE depuis la semaine dernière, c'est que dans toute leur communication, ils disent
on est là, on fait des choses et on est prêt à en faire davantage et différent si ça ne marche pas. Donc ils se disent préparés à une extrême souplesse dans les achats des titres du gouvernement, dans les financements à l'entreprise. Donc, et aussi, ils ont la mesure de la gravité de la situation et ils se disent prêts à faire tout ce qu'il faut. Le whatever it takes est revenu en fait en force.
Francesco Saraceno, Christian de Boissieu, quand vous évoquez ces transferts de masse monétaire de la Banque centrale aux banques nationales et puis au secteur industriel, aux entreprises, aux PME, aux grosses boîtes, ça, c'est une réponse au choc de l'offre que vous évoquiez tout à l'heure. Mais il y a aussi le choc de la demande que vous évoquiez. Est-ce que, par exemple, vous seriez l'un ou l'autre favorable à ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire que la Banque centrale dépose une certaine somme sur le compte en banque, sur nos comptes en banque, sur le compte en banque des consommateurs, des citoyens européens, une mesure qui est évoquée, par exemple, aux États-Unis.
Est-ce que je peux dire quelque chose?
Oui, bien sûr.
Excusez-moi de revenir sur mon que sais-je, le centième mot de mes 100 mots s'appelle « monnaie hélicoptère ». Bon, et je reprends le débat sur ces projets qui avaient été évoqués par Milton Friedman lui-même en 1969.
Oui, donc, alors Milton Friedman, c'est un grand économiste américain, l'école de Chicago, le père de politique reaganienne et thatcherienne. Voilà.
C'est pas nécessairement ma tasse de thé, je dis simplement que cette idée, elle est dans le débat depuis longtemps. C'est pas parce que vous créez comme ça, c'est pas parce qu'il y aurait de la monnaie, entre guillemets, qui tomberait du ciel, que les gens vont se mettre à consommer et à investir. Tout est un problème de confiance et de transmission. Donc moi, je suis un tout petit peu réservé sur ces schémas de monnaie hélicoptère qui sont censés nous sauver, contourner un peu les réticences des banques et donner directement de l'argent, aux citoyens. Sur le plan général, pourquoi pas, mais je dis simplement, il n'y a aucune garantie que les sommes qui seraient mises comme ça au crédit de votre compte en banque vont être aussitôt consommées ou investies. On est dans on traverse une énorme crise de confiance et dans les crises de confiance, on a besoin de pilotes dans l'avion et ça rejoint le débat sur l'Europe. On a besoin de plus d'Europe et on a besoin aussi de confiance pour pouvoir consommer. Le danger, c'est que ces sommes servent surtout à épargner.
Francesco Saraceno, pour la dernière intervention de cette émission, la monnaie hélicoptère, vous en pensez quoi?
Je pense que c'est beaucoup plus approprié aux États-Unis qu'ici, pour les raisons que disait M. de Boissieu. Aux États-Unis, il manque totalement les systèmes de protection, un système de protection sociale. Il n'y a pas de congés pour des raisons de santé. Donc, aux États-Unis, il y a un problème de soutien des revenus des ménages pour qu'ils tombe pas dans un état de pauvreté, qui rend très important un transfert direct, qu'il soit de la monnaie fédérale, qu'il soit l'hélicoptère money, bon, ça c'est presque un détail. Chez nous, les systèmes de protection sociale, les amortisseurs sociaux marchent, donc les gens au chômage reçoivent un revenu, et du coup, pourquoi pas leur donner un peu plus, pourquoi pas ne le faire avec un...
Brièvement, Francesco.
Mais, et je répète, chez nous, la priorité, c'est d'utiliser toutes les ressources possibles pour garder le système des entreprises en vie. Parce que chez nous, les revenus des ménages est beaucoup moins menacé qu'aux États-Unis.
Merci Francesco Saraceno, merci Christian de Boissieu. Cette émission est maintenant terminée dans des conditions difficiles en raison de la crise du coronavirus. Merci au service économique de RFI qui s'est massivement mobilisé pour préparer ce programme. Vous pouvez nous réécouter sur votre application Pure Radio sur votre smartphone et je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques. Au revoir.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Washington DC.